Sajo et ses castors par Gray Hall, troisième cassette, première face, page 84. Chapitre 7, le trafiquant. Un jour vint Ugichi Miguon déclara qu'il fallait donner la liberté aux petits castors. Ils avaient atteint maintenant une belle taille, ils étaient très forts et très remuants, et les enfants se demandaient avec un peu d'anxiété s'ils n'allaient pas s'aventurer trop loin et se perdre. Mais leur père leur assura que les petits castors n'abandonneraient pas une demeure où ils étaient bien traités et qu'ils reviendraient toujours à la cabane, comme si c'était une hutte familiale. D'ailleurs, la solitude ne tarderait pas à leur peser et ils ne resteraient guère plus d'une ou deux heures sans revenir. Un jour donc, ce fut un jour plein d'émotions, la barrière qui défendait l'ouverture de la porte d'entrée fut retirée et les castors sortirent. Oh, pas tout de suite. Ils commencèrent par jeter autour de la porte des regards furtifs et défiants, par écouter, renifler, comme si une foule de bruits et d'odeurs imaginaires les inquiétaient, et ils firent deux ou trois fausses sorties avant de se risquer finalement sur le chemin du lac, encadré par Sajo et Chapian, comme par des gardes du corps. Ils avancèrent d'abord lentement, avec circonspection, s'asseyant à tout moment pour regarder autour d'eux s'il n'y avait pas d'ours ou de loup en vue. Bien entendu, il n'y en avait pas, mais c'était très amusant de faire comme s'il y en avait. Quand ils furent près du lac, leur allure se fit plus rapide. Elle se changea en un trot qui devint bientôt un galop et ils se précipitèrent dans l'eau, plouf, pour en ressortir aussitôt, déconcertés par une si vaste baignoire. Cependant, ils ne tardèrent pas à y retourner et se mirent à nager, à plonger, à battre l'eau avec leur queue, en poussant de petits cris aigus et à s'amuser ferme, absolument comme de vrais castors, observa Sajo. Ils s'avisèrent bientôt d'abattre de jeunes plants de peupliers en les rongeant du pied. Ils les coupèrent ensuite en petits bâtonnets et s'installant parmi les hautes herbes et les roseaux de la rive, en rongèrent l'écorce avec bonheur. Ils jouèrent, luttèrent, coururent le long du bord et s'amusèrent bruyamment avec leurs jeunes amis, faisant dans le lac de rapides plongeons avec un entrain sans pareil. Ils fourraient leurs museaux curieux dans tous les trous et c'est ainsi qu'ils découvrirent l'entrée d'un terrier abandonné de rats musqués. Comme l'ancien occupant était à peu près de leur taille, ce trou leur convenait parfaitement et ils commencèrent tout de suite à l'agrandir. Le terrier s'ouvrait dans la berge, sous la surface du lac, et tandis que les castors travaillaient avec ardeur, la vase remontait en épais nuages, si bien qu'on ne pouvait plus rien distinguer dans l'eau. Ils demeurèrent si longtemps invisibles que Chapian, inquiet, entra dans l'eau, enfonça son bras dans le trou et tâta de la main l'intérieur du terrier. « Sajo ! » s'écria-t-il tout ému. « Sajo ! Les castors ne sont plus là !» Le frère et la sœur commençaient à fouiller fiévreusement les roseaux et les fourrés de la rive quand ils entendirent derrière eux des cris et des gémissements de détresse. C'était Chikani et Chilawi, mourant de peur d'être abandonnés, qui accouraient vers eux de toute la vitesse de leurs courtes pattes. En quittant leur travail, ils avaient nagé un instant dans l'eau trouble et avaient atterri sans être vus sur un autre point de la berge. À présent, ils étaient fatigués. S'asseyant par terre comme deux petits elfes velus, ils se frottèrent, se nettoyèrent, peignèrent leur fourrure, et quand ils eurent fini et furent tout à fait secs, tournèrent le dos au lac, et remontèrent côte à côte, d'un pas lent et grave, le sentier menant à la maison. Une fois là, ils reçurent chacun un bon morceau de bannock et se retirèrent tranquillement dans leur chambre d'écorce de bouleau pour manger leur repas. Puis, se serrant le plus possible sur leur belle litière de copeaux bien secs, ils s'endormirent profondément. Ainsi se termina leur premier jour de liberté. Comme l'avait dit Sajo, c'était enfin de vrais castors. Après cela, chaque jour, dès que la porte s'ouvrait, ils descendaient au trot vers le lac et prenaient leur bain quotidien. Ils passaient des heures entières à creuser le terrier qu'ils avaient découvert. Quand ils le jugèrent assez profond pour être un abri sûr, on eût cru à la façon inquiète dont ils surveillaient les alentours que le pays était infesté de dragons, le tunnel fut continué dans le sens de la verticale et alla déboucher sur la rive, devenant ainsi un véritable trou de plongée. Alors, à la grande joie de Sajo et de Chapian, ils construisirent au-dessus une drôle de petite maison de castor. Ainsi, ils avaient maintenant une véritable hutte, comprenant une petite pièce, un trou de plongée, un tunnel et une entrée submergée. Cette hutte, il faut le dire, était un peu branlante et ses murs n'étaient pas très bien cimentés, mais c'était tout de même un abri très convenable. Ils rassemblèrent ensuite beaucoup de petits arbustes, de pousses de saules et de peupliers et en firent un minuscule radeau devant l'entrée de leur maison. Un radeau de vivres semblable à ceux que construisent les gros castors, bien que de dimensions plus réduites. Naturellement, tous ces feuillages s'aigriraient dans l'eau bien avant que le temps fût venu de les utiliser. L'été n'est pas l'époque où l'on construit des radeaux de vivres, et la maison branlante n'était pas non plus à l'épreuve de la pluie. Mais les petits castors s'en souciaient peu. Ils avaient, comme les grandes personnes, une bonne couchette chaude dans la cabane, le bannock ne leur manquait pas, accompagné même à l'occasion d'un peu de confiture, et chacun avait une petite assiette pour son usage particulier. De sorte qu'ils possédaient en somme beaucoup de choses pour de si petites créatures et vivaient dans un grand confort. Pas plus la maisonnette que le radeau ne leur était donc nécessaire, mais c'était fort amusant de couper de petits arbres, de creuser le sol, de jouer avec la boue, de se livrer enfin aux travaux que les castors se plaisent à exécuter et sans lesquels ils ne pourraient pas vivre heureux. Sajo et Chapian, qui passaient presque tout leur temps sur le bord du lac, s'amusaient autant qu'eux rien qu'à les regarder. Ils les aidaient souvent en leur apportant des matériaux de construction, bâtons, broussailles, petites pierres, que raflaient immédiatement les deux castors. Parfois, ces petits fripons revenaient sur la berge, couverts de boue et tentaient de grimper sur leurs jeunes amis. Il s'en suivait alors une véritable mêlée et beaucoup d'éclats de rire. Chapian construisit au bord de l'eau un abri pour leur jeu et ils allaient s'y reposer à l'ombre tous les quatre. C'était l'endroit favori de Chicani. Ils venaient y chercher Sajo et il y accourait toujours lorsqu'elle l'appelait. Quant à Chilawi, le téméraire, qui tenait de l'aventurier et du pirate, il ne restait jamais longtemps en place. Il se lançait sans cesse dans de nouvelles expéditions et disparaissait continuellement. Lui, naturellement, savait qu'il n'était pas perdu. Mais les autres le croyaient, ce qui pour eux revenait au même, et on organisait des battues. Alors, Chilawi réapparaissait soudain dans les endroits les plus inattendus, dans l'abri que l'on croyait vide, ou dans la cabane quand on le croyait dans l'abri, à moins qu'on ne le découvrît caché dans la hutte des castors ou endormi sous la pirogue. Une fois découvert, il s'asseyait tout droit, sa queue étalée devant lui, et se mettait à se balancer, à se tortiller, à secouer la tête, comme s'il exécutait une danse ou se réjouissait du bon tour qu'il venait de jouer à tout le monde. Quand une agitation sans motif se produisait, on ne risquait guère de se tromper en supposant que ce garnement en était la cause. Lorsqu'on entendait des cris, des glapissements, un tumulte quelconque, on pouvait être sûr que Chilawi faisait sa petite partie dans le concert et sa voix se faisait entendre à toute heure et en tout lieu. Chicani n'était pas non plus le petit saint que vous pourriez imaginer. Il savait s'amuser comme les autres, mais à certains moments, il se calmait subitement. Peut-être une idée surgissait-elle dans sa petite tête, un vague souvenir de l'étang de son enfance, l'étang situé là-bas, très loin, à l'abri des collines aux feuillages murmurants. Alors, quand Sajo n'était pas là pour le réconforter, il allait en se dandinant sur ses courtes pattes jusqu'à la salle de jeu. Si sa Jo s'y trouvait, il s'asseyait à côté d'elle et commençait par faire soigneusement sa toilette. Puis, une fois bien peigné, il se pelotonnait contre sa grande amie, nichait sa tête sur ses genoux et tentait, dans son étrange langage de castor, de lui expliquer ce qui le tourmentait. Ou bien, fermant à demi ses yeux rêveurs, il demeurait dans cette position en poussant de petits soupirs dont personne ne savait s'ils exprimaient la satisfaction, la tendresse ou la mélancolie. Oui, en vérité, ces deux-là étaient une paire d'amis, et lorsqu'on voyait l'un, on était sûr que l'autre n'était pas bien loin. Et le temps passait ainsi agréablement durant ces jours fortunés à Opipisowe, le pays de l'eau qui parle. Depuis quelque temps, le Bannock était donné en morceaux de plus en plus petits. Longue Plume, qui était partie depuis quelques jours pour aller chercher des provisions, n'était pas encore de retour, et il n'y avait presque plus de farine dans la maison. Personne, les enfants comme les castors, n'eut grand-chose à manger jusqu'au jour où les quatre amis, rentrant à la cabane, y trouvèrent Gitchimigwon. Celui-ci avait un air grave et préoccupé, mais les provisions étaient là, un sac de farine et d'autres denrées, posé sur le plancher. À côté se tenait un homme blanc, un étranger, qui avait avec lui une grande boîte. Longue Plume parla aux enfants d'un ton affectueux, mais sans leur sourire comme il le faisait d'ordinaire, et ils se demandèrent pourquoi. L'homme blanc ne disait mot. Quelque chose n'allait pas, c'était visible. Les petits castors eux-mêmes semblaient s'en apercevoir, car les animaux sont souvent prompts à deviner les sentiments des hommes. Eux aussi demeuraient immobiles, en observation. Chapian, qui avait fréquenté l'école de la mission et comprenait assez bien l'anglais, entendit son père dire à l'homme : Les voilà, lequel des deux voulez-vous ? Comment ? Que voulait-il dire ? Le cœur défaillant, Chapian regarda sa sœur, mais naturellement, elle n'avait pas compris. « Attendez que je les ai mieux vus, » répondit l'étranger à la question de Gitchimigwon. « Faites-les remuer un peu. » C'était un homme robuste, au teint rouge, aux yeux bleus et durs, comme du verre ou de la glace, pensa Chapian. Cependant, les yeux de Longue Plume étaient pleins de tristesse quand il les tournait vers son fils et sa fille. Il pria l'homme blanc d'attendre un moment qu'il eût parlé à ses enfants. Sa Jo, Chapian, mon fils, ma fille, j'ai quelque chose à vous dire, commença-t-il en indien. Sa Jo comprit qu'un chagrin les menaçait. Elle se rapprocha de Chapian et jeta un coup d'œil timide à l'étranger. Pourquoi ? Oh, pourquoi regardait-il les castors avec tant d'insistance ? Mes enfants, continua le père, voici le nouveau trafiquant du poste de fourrure de Rabbit Portage. L'ancien, qui était un ami pour nous, est parti. Une nouvelle compagnie a repris le poste et me réclame ce que je dois. C'est une grosse somme que je ne serai pas en mesure de payer avant la chasse de l'hiver prochain. L'ancienne compagnie avait coutume de faire crédit aux Indiens, mais la nouvelle dit qu'elle ne peut pas attendre. Vous le savez, nous n'avons plus de provisions et la compagnie ne me donnera rien tant que ma dette ne sera pas payée. Il est donc convenu que je vais partir avec d'autres hommes du village pour transporter des marchandises de la compagnie à son nouveau poste du lac de la Prairie, qui est très loin d'ici. Mon travail payera ma dette et au-delà, mais je ne recevrai pas d'argent avant mon retour. En attendant, mes enfants, il faut que vous viviez et je ne veux pas que vous ayez faim. Ce trafiquant va vous donner des provisions. Il désigna du geste le sac et les paquets étalés sur le sol. Et en échange, il demande Il demande un des castors. Il s'interrompit et personne ne bougea, même les castors. Puis il reprit. Les castors vivants ont beaucoup de valeur et celui que l'homme va emporter ne sera pas tué. Mais j'ai le cœur gros pour vous, mes enfants. Et aussi, il regarda Chilawi et Chikani, et aussi pour le petit frère qui va nous quitter. Chapian ne fit pas un mouvement. Il demeura très droit, ses yeux noirs fixés sur le trafiquant, tandis que Sajo, qui ne pouvait croire chose pareille, murmurait « Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. » Mais Chapian, lui, ne dit pas un mot. Il mit son bras autour de l'épaule de sa sœur et continua à regarder fixement cet homme qui était venu détruire leur bonheur. Il songea à sa carabine qui était là, chargée, tout près de lui dans un coin. Mais son père devait être obéi, et Chapian ne bougea pas. Il regardait le trafiquant d'un air si farouche que devant ce gamin de 14 ans, l'homme commençait à se sentir un peu mal à l'aise. Il ouvrit donc sa boîte, tendit la main vers un des castors, attrapa le petit animal qu'il plongea dans la boîte et referma le couvercle. Puis, faisant un signe de tête à Gichi Miguan, « C'est convenu, dit-il, je vous attends au poste dans 2 jours. » Et il sortit, la boîte sous son bras, en fermant la porte derrière lui. Ce fut tout. Alors Sajo, sans un mot, tomba à genoux à côté de son frère et cacha son visage dans sa manche. Le trafiquant avait choisi Chikani. Et Chilawi, pris d'une frayeur soudaine, ne sachant que penser, alla se réfugier dans son petit abri, tout seul. Chapitre 8. Sajo écoute les voix de l'eau qui parle. Longue Plume partit le lendemain pour le poste de fourrure afin de payer sa dette à la compagnie par son travail. Il y avait avec lui 17 autres habitants du village, montés dans 3 grandes pirogues d'écorce. À Rabbit Portage, il devait charger les pirogues de provisions pour le lac de la Prairie, ou Musco-Dasing, M-U-S-K-O-D-A-S-I-N-G, autre poste de la compagnie établi beaucoup plus loin vers le nord. La brigade, comme on appelle ces caravanes de pirogues, serait absente au moins un mois. Et Sajo, Chapian et Chilawi furent laissés seuls à O-P-P-S-O-Way. Quand le trafiquant avait si rudement fermé la porte entre elle et la petite créature qui était ce qu'elle avait de plus cher au monde après son père et son frère, Sajo avait eu l'impression que son cœur aussi était parti avec Chikani dans la grande boîte. Depuis, la vie était toute changée pour eux trois. Le cercle heureux était rompu. Plus de joyeuses parties dans l'abri, plus de farces, plus de rires au bord du lac. Chilawi ne faisait plus de cabriole et sa voix, qu'on avait coutume d'entendre partout et toujours, se taisait à présent. Il ne se livrait plus à ses danses joyeuses et cocasses, il ne jouait plus, mais errait tristement sur le sentier du lac, d'un bout à l'autre de la journée, à la recherche de Chikani. Il n'arrivait pas à se mettre dans la tête que son compagnon de jeu n'était plus là. Chaque matin, frais, dispos et plein d'espoir, il partait au petit trot, convaincu qu'il le trouverait dans les environs. Il allait inspecter les moindres recoins de l'abri du bord de l'eau, passait en revue l'un après l'autre les endroits qu'ils avaient fréquentés tous les deux. Herbes et roseaux froissés en témoignaient. Là où ils étaient venus pour se peigner, lutter ou pour se chauffer côte à côte au soleil. Ils longeaient ensuite le bord du lac à la nage, fouillant tous les points de la rive où ils avaient coutume d'atterrir, ou bien plongeant pour pénétrer dans la petite hutte branlante qui avait été si amusante à construire. Ainsi se dépensait-il en recherche tout le jour, jusqu'au moment où, renonçant enfin à sa poursuite, son petit trot lourd et impatient changé en un pas lent et fatigué, il remontait péniblement le sentier sur ses petites jambes lasses, regagnait la maison et s'étendait sans rien dire dans sa case déserte et silencieuse. Ce n'était pas un joyeux garnement, un fripon plein de malice, mais simplement un petit castor très malheureux de se trouver seul. On ne l'appelait plus à présent gros petit, mais petit, tout court, puisqu'il était désormais l'unique petit. Les deux enfants l'accompagnaient dans ses rondes et faisaient semblant de regarder partout eux aussi, tout en sachant l'inutilité de ses recherches. Mais ils ne pouvaient pas supporter de le voir errer ça et là tout seul comme une âme en peine. Quand il prenait son repas, le frère ou la sœur lui tenait son assiette et parfois une ou deux grosses larmes tombaient dans le pain trempé de lait lorsque Sajo pensait à Chicani qui aurait dû être là. Pauvre Chicani, pauvre tout petit, si doux, si gentil, qui ne pouvait supporter la solitude et qui était maintenant bien loin dans une grande ville où il n'y avait plus pour lui de bonne partie, plus de banoc, plus d'amusement. Néanmoins, cela semblait chose incroyable que Chicani fût réellement parti et l'on s'attendait presque à découvrir sa petite personne replète, installée quelque part dans la salle de jeu ou à le voir bondir à la suite de Chilawi, de la petite case en écorce de bouleau, pour prendre son régal quotidien de banoc. L'on croyait à tout moment entendre sa voix du côté du lac. Des empreintes de ses pattes, beaucoup plus petites que celles de Chilawi, étaient demeurées dans la boue de la rive. Sajo allait souvent les regarder avec attendrissement, et quand il n'y avait personne près d'elle, elle se penchait, les caressait du bout des doigts, et leur parlait tout bas. À la longue, la pluie les effaça. Sur la dernière encore visible, Sajo posa une feuille d'écorce de bouleau, et tous les jours elle allait seule lui rendre visite. Mais peu à peu, la terre sécha, tomba en poussière, cette dernière marque disparut. Et il ne resta plus rien de Chicani. Bien que durant cette période la voix de Chilawi se fît rarement entendre, il lui arrivait de s'éveiller au milieu de la nuit et de gémir sur sa solitude en tâtonnant dans l'obscurité à la recherche d'un autre petit corps rondelet qu'il n'arrivait pas à retrouver. Alors Sajo l'entendait, se glissait près de lui sur la litière de copeaux et le serrant dans ses bras, sanglotait jusqu'à ce que le sommeil se fût de nouveau emparé d'eux. Quant à Chapian, il passait des heures au bord du lac, les yeux fixés sur la ligne tourmentée des collines lointaines, silencieux et le cœur gros, en songeant à sa sœur qui plus jamais ne chantait ni ne riait en circulant dans la maison comme elle avait coutume de le faire. Sa gorge se serrait et il regardait autour de lui d'un air farouche car personne ne devait savoir combien il avait de peine à retenir ses larmes. Comme ces sacs et ces paquets que le trafiquant avait laissés en échange de Chicani lui faisaient horreur. C'est tout juste si le banoc ne l'étranglait pas quand il en mangeait. Si seulement il avait eu l'idée d'offrir à l'homme blanc son fusil, qui lui avait coûté 4 pots de vison et devait bien avoir autant de valeur qu'un tout petit castor. Bien que Chilawi lui appartint en propre, les enfants ayant chacun leur castor, Chapian l'abandonna complètement à sa sœur. Parfois, elle emportait le petit castor à quelque distance en arrière du village, près d'un ruisseau qui descendait de la colline et formait une petite cascade. Près de la cascade se dressait un grand pin, et c'est à l'ombre de ses branches murmurantes que Sajo s'asseyait pour réfléchir aux moyens de retrouver Chicani, tandis que Chilawi nageait, plongeait et s'amusait tout de même un peu dans la nappe d'eau calme et profonde alimentée par la cascade. Il avait l'air plus heureux, pensait Sajo, parce que cette crique était toute petite et ne ressemblait pas au lac vaste et désert qui s'étendait sur des kilomètres et des kilomètres avec un seul petit castor pour l'animer. Et pendant que son petit compagnon faisait ses tours dans l'eau, pelait ses baguettes de saule ou venait s'asseoir sur ses genoux pour se peigner, Sajo écoutait les voix de la cascade. Car sachez-le, si vous attendez avec suffisamment de patience, près d'un rapide ou d'une cascade, au bout d'un moment, il vous semblera entendre de légers murmures, des voix fugitives, tantôt plus fortes, tantôt plus douces, parfois très distinctes, puis s'affaiblissant et finissant par se perdre dans le bruit de l'eau courante. Tous les Indiens connaissent ces voix, et les Blancs qui les ont écoutées affirment les avoir entendues, eux aussi, chanter doucement dans les torrents. Les Indiens racontent que ce sont les voix des gens habitant le pays des esprits qui reviennent parler à ceux qui leur sont chers. Sajo demeurait là, guettant les voix et tâchant d'entendre ce qu'elles disaient. Elle était sûre d'arriver un jour à les comprendre, ce qui serait naturel, car les mots indiens ont des consonances qui rappellent le chant de l'eau courante, le souffle du vent, le chuchotement des arbres. Très souvent, Chilawi se tenait immobile à côté d'elle, comme s'il écoutait les voix, et peut-être les entendait-il mieux que Sajo elle-même, car le castor a l'oreille beaucoup plus fine que l'homme. Tel était l'endroit qui avait inspiré aux Indiens le nom du village, Opipisowe, le pays de l'eau qui parle. C'était le coin favori de Sajo qui avait coutume d'y venir depuis sa petite enfance, chaque fois qu'elle se sentait triste, qu'elle voulait réfléchir à quelque chose ou prendre une grande décision. Elle s'étendait à l'ombre du grand pin, le regard levé vers les intervalles sombres qu'on voyait entre les branches géantes. C'était très joli là-haut, quand des rayons de soleil transperçaient la verdure. On eût dit un pays lointain, inexploré, hanté par des fées ou autres êtres fantastiques, et Sajo se demandait parfois si ce n'était pas là qu'habitaient les esprits qui parlent par la voix des eaux. Lorsqu'elle regardait ainsi le haut de l'arbre se balancer doucement, tout en prêtant l'oreille au chant du ruisseau, elle avait l'impression que sa mère était près d'elle et lui parlait, et cela la rendait très heureuse. Fin de la première piste de la troisième cassette, page 103, Sajo et ses castors, par Gray Hall.